À tous et à toutes, que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Ça fait plaisir de se retrouver et de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Eh bien, ce matin, j'ai pensé à un texte biblique. C'est dans la première épître aux Corinthiens et au chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Corinthiens, chapitre 10, donc, hein. À partir du premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été dans la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns, d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà, nous avons ici un texte biblique dont le dernier verset est très connu. 1 Corinthiens 10, 13 est un des versets que l'on apprend par cœur. Et j'espère que non seulement vous l'avez appris par cœur, mais que vous expérimentez combien il est puissant et fort dans votre vie chrétienne. Mais nous lisons avant que, et c'est Paul qui le dit, combien le peuple d'Israël a eu de problèmes dans le désert. Et toutes les allusions qui sont faites dans ce texte, ce sont des allusions à l'Exode, et l'Exode, Nombre et Deutéronome, où on trouve l'histoire d'Israël au désert. Et comment le peuple, eh bien, s'est trouvé dans des situations où ils n'ont pas su gérer et ils ont été même coupables. Ils se sont détournés de Dieu, ils ont murmuré, etc., etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Et il y a quatre faits qui sont relevés ici. Mais en fait, cette période du peuple d'Israël correspond à une partie de la vie chrétienne. C'est-à-dire que une fois que l'on est sauvé, que Jésus-Christ est devenu notre sauveur, eh bien, on n'a pas encore mis les pieds dans la terre promise. Et souvent, eh bien, on a des épreuves et des tentations que plus tard dans la vie chrétienne, quand on est plus âgé dans la vie chrétienne, on est à l'abri. Donc, on a besoin d'apprendre à avoir la victoire sur ces tentations. Et donc, d'abord, une première chose. C'est que je voudrais faire une distinction entre trois choses. La première, c'est que il y a des tentations. Ensuite, il y a des épreuves. Et puis, il y a aussi des châtiments. Alors, la frontière est bien vague dans notre esprit entre une épreuve, un châtiment ou une tentation. Et souvent, on dit, mais je suis éprouvé. Non, mon frère, tu es châtié. Il y a un péché dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas et que tu n'as pas mis en règle et que tu tolères et que dans laquelle tu continues à persévérer. Ce n'est pas une épreuve, c'est un châtiment. C'est Dieu lui-même qui est devant toi. Je prends pour exemple un verset qui se trouve dans la première épître de Pierre. Il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que quand nous avons à cause de notre orgueil un châtiment? Est-ce que c'est une épreuve ou une tentation? C'est un châtiment. C'est Dieu lui-même qui se présente devant nous et qui s'oppose à nous. C'est gardez-vous de l'orgueil. L'orgueil est la plus je veux dire, le plus bête des péchés. C'est le, parce que l'orgueilleux n'est jamais très, comment dire, c'est un aveugle sur lui-même. Il croit que son orgueil ne se voit pas. Mais l'orgueil de l'orgueilleux est visible. Il a toujours besoin de prouver ce qu'il est. Mais celui qui est face à son orgueil, eh bien, à Dieu, qui s'oppose à lui. Et souvent, beaucoup de nos projets ne réussissent pas à cause de notre orgueil. Parce que Dieu ne peut pas donner suite à ce que nous aimons, ce que nous aimerions, parce que cela ferait grandir notre orgueil et nous amènerait sur des sommets d'orgueil que Dieu ne veut pas que nous atteignions. Alors il préfère nous laisser dans une certaine médiocrité. Et on se plaint de la médiocrité, on se plaint de ne pas avoir ceci, de ne pas avoir cela, de ne pas pouvoir faire ceci ou pas pouvoir faire cela. Mais si nous l'avions, nous serions des orgueilleux. Et Dieu nous préserve de l'orgueil. Il nous garde de l'orgueil. C'est Dieu qui s'oppose à nos projets parce que ces projets ont un mobile secret, même que nous ne nous avons pas nous-mêmes, c'est l'orgueil. C'est ces choses qui sont arrivées au peuple d'Israël, sont arrivées pour notre instruction, pour que nous apprenions, pour que nous soyons au courant de ce qui est Dieu fait et comment il agit. Le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, et d'ailleurs il est toujours le peuple de Dieu, hein, ça n'a pas changé, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Et ce n'est pas, je ne cite pas ce verset pour en faire une application au peuple d'Israël. Dans l'Épître aux Romains, ce verset est appliqué à Israël. Donc, nous l'appliquons souvent à nous, mais il est premièrement appliqué au peuple d'Israël. Donc, Dieu ne s'est pas repenti de ses dons et de son appel. Le peuple d'Israël est toujours le peuple de Dieu. Je ne veux pas dire qu'ils sont sans défauts. Au contraire, ils ont beaucoup de défauts. Ils ont des défauts humains. Et on ne peut pas non plus dire qu'ils sont parfaits, parce que c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et nous, quand nous lisons dans l'Exode, les Nombres et le Deutéronome, nous lisons l'histoire d'Israël, et nous voyons combien le peuple de Dieu était châtié durement par Dieu. Vous savez combien du peuple d'Israël sont entrés dans la terre promise ? Ils sont sortis, j'évalue à peu près à 3 ou 4 millions d'Égypte. Et ils sont sortis, rentrés dans dans le pays, 2. Tous ceux qui sont rentrés avec ces 2 étaient la nouvelle génération. Même les enfants, qui avaient été, enfin, tous ceux qui avaient au-dessus de 20 ans, 20 ans et au-dessus, sont morts dans le désert. Sauf ces 2-là, Caleb et Josué, parce qu'ils avaient eu la foi. Nous sommes toujours confrontés à des multitudes de situations. Et ces situations nous permettent d'éprouver ce que nous sommes. Ça, ce sont des épreuves. Et nous sommes, est-ce que nous allons tenir? Est-ce que nous allons marcher? Comment nous allons marcher? La vie chrétienne est une vie se vit par la foi. Il n'y a pas de vie chrétienne sans foi. C'est même dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il est dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » C'est tout, hein, c'est impossible. C'est pas qu'il y a une possibilité que certains n'ont pas eu beaucoup de foi et ont quand même été agréables à Dieu. Non, c'est l'absence de foi fait que nous sommes désagréables à Dieu. Je l'ai tourné d'une autre manière, hein. C'est donc parce que quand on dit sans la foi il est impossible de lui être agréable, je peux dire celui qui n'a pas la foi est désagréable à Dieu. Dieu ne l'approuve pas. Dieu n'est pas de son côté. Et à cause de notre incrédulité, parce que il faut bien dire les choses comme elles sont, eh bien il y a des châtiments. Dieu éprouve notre foi, et quand la foi n'est pas présente, eh bien il y a des châtiments. Parce que la vie chrétienne se vit par la foi. Vous avez le verset 10, il dit « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Voilà, nous sommes dans les murmures. Ah là là, nous sommes entre nous, hein. Et je vais vous dire franchement, qu'est-ce qu'on peut murmurer? Qu'est-ce que j'entends comme murmure, comme parole négative? Et je dois avouer que moi-même, j'en dis, hein, je vous le demande, hein, je vous le dis franchement, je suis quelqu'un qui murmure. De temps en temps, je me surprends à dire, ça, quand même, c'est... On hausse les épaules, on pousse un soupir, c'est un murmure. Je ne suis pas content des situations dans lesquelles Dieu me place. C'est murmurer. Et beaucoup d'entre nous, eh bien, nous avons l'habitude de... Nous nous plaignons du temps. Ah, il fait chaud aujourd'hui, hein. Ah là là, quelle canicule. C'est, on transpire, hein. Oui, mais rendez grâce à Dieu en toutes choses. Eh bien, nous sommes rentrés dans cette salle en murmurant. Eh oui, nous avons trouvé qu'il faisait trop chaud. Bon, bien sûr, on peut le dire, c'est simplement une information, il fait chaud. Mais la plupart du temps, au fond de nous-mêmes, eh bien, nous sommes mécontents. C'est là qu'est le murmure. Dans le fond du murmure, il y a le mécontentement. Et nous disons, eh bien, c'est trop chaud. C'est pas seulement chaud. Nous avons des situations dans lesquelles, ah, j'ai encore raté le bus. Oh là là, ça n'arrive qu'à moi, ces choses-là. Pas du tout. Ça m'arrive à moi aussi. Non, je ne rate jamais le bus. Je ne le prends jamais. Donc, je risque pas de le rater. Mais parfois, il m'arrive de me rater le métro. Donc, comme je prends souvent, eh bien, je vois le métro passer. Bon, ben, il est passé. Et c'est comme ça. Alors, on a cette réaction de révolte et de dire c'est injuste. Mais je suis quand même, en tant qu'être humain, sous le regard de Dieu. C'est Dieu qui permet les choses. Je vais vous dire, ce mot permet, la volonté permissive de Dieu est très important. Il y a des chrétiens qui nient complètement. La volonté permissive de Dieu n'existe pas. Donc tout est cadré d'avance, tout doit arriver, ça arrive, c'est comme ça. Mais je crois que Dieu est un Dieu qui permet que certaines choses arrivent et nous arrivent pour que nous puissions être des adultes, pour que nous puissions grandir. Si vous voulez être costaud, eh bien il faut faire des exercices physiques. Hein, si vous voulez être un champion de course cycliste, eh ben, il faut pas les regarder à la télévision. Hein. Il faut prendre un vélo et puis aller faire des courses. Et d'abord faire du parcours et puis à un certain moment, ben, il va falloir faire des courses et se confronter avec d'autres qui ont une valeur et qui vous pouvez dire je suis meilleur ou je suis moins bon et je dois m'améliorer. C'est comme ça. Et c'est comme ça que l'on arrive à devenir... Bon, peut-être que l'on n'arrivera jamais parce qu'on n'est pas assez doué ni on n'a pas la capacité physique. Mais ceux qui veulent y arriver, ben, ils sont obligés de passer par là et de faire des exercices et de grandir dans leur spécialisation. Et s'ils deviennent experts dans certaines choses, eh bien, c'est parce qu'ils l'ont étudié. Mon père était dans les douanes. Et il était d'ailleurs à Paris, à la gare de Lyon. Et alors, un jour, le marché commun a commencé à se créer. Le marché commun, à l'époque, c'était entre l'Allemagne et la France. Hein. Il y avait des accords entre le charbon et l'acier. Et bon, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais lui était incollable sur ces choses-là. Parce que dès le début, il s'y est intéressé passionnément. Il a étudié toutes les lois, il a tout. Et si bien que dans les douanes, il était l'expert dans le marché commun. Donc, c'est lui qui mettait à jour le registre avec toutes les lois, les décrets qui sortaient et qui passaient au journal officiel. Et tout était classé. Il avait un énorme livre. Il avait même fabriqué un pupitre parce que le livre était tellement vaste qu'il ne pouvait pas être porté à bras d'homme. Il fallait que ça soit posé sur ce machin-là. Et il tournait les pages et les gens venaient le consulter. Mais dans telle situation, comment les droits s'appliquent pour tel pays ou tel... Il connaissait toutes ces choses-là. Mais pourquoi? Parce qu'il s'y était intéressé. Il y avait passé du temps. Il avait lu les journaux officiel, il avait lu les codes de loi, les décrets, toutes ces choses. Bon, je peux vous dire, je l'admire parce que ça, c'est vraiment, je n'aurais pas eu la patience de regarder 5 minutes ce genre de choses. Mais lui, il a vu naître le marché commun et il s'y est intéressé passionnément. Et quand il en parlait, Vraiment, il était passionné de la chose. Bref, mais il ne l'est devenu que parce qu'il l'a voulu vraiment. Et c'est comme cela en tout. Tout ce que nous faisons, si nous le voulons vraiment, nous l'accomplirons et nous irons jusqu'au bout. Nous sommes responsables. Alors, s'il y a ceux qui murmurent et qui se contentent de toujours parler négativement, mais nous sommes confrontés à une épreuve. Quelle va être ma réaction dans cette situation? Quelle va être ma réaction? Je me rappelle, il y a quelque temps, je devais aller à Somain. Voilà. Je prends ma voiture. Je me suis rendu compte, c'était l'été, hein, c'est cet été-là. Donc, il faisait très chaud. Alors, je suis allé au supermarché qui est juste à 5 minutes à pied. Bon, je suis allé en voiture, je me suis garé, j'ai pris une bouteille d'eau et j'ai voulu faire démarrer la voiture. Impossible. Elle n'a pas voulu démarrer. Oh là là. Et puis, j'avais des kilomètres à faire et je n'étais pas en avance. Alors, et puis, je dis, Seigneur, c'est toi qui le permets. Je remets cette situation entre tes mains. Et puis, pendant 10 minutes, ça n'a pas marché. Puis finalement, elle est partie. Voilà. Peut-être 2 kilomètres plus loin, il y avait un grave accident. Une dame, sans doute, elle téléphonait et elle est rentrée dans la voiture qui était devant elle. Et je me suis dit, si tu avais pas été, tu avais démarré tout de suite, peut-être que c'est toi que tu aurais eu cette catastrophe. Un peu plus loin, sur l'autoroute, il y avait un accident, un grave accident. Ah, je me suis dit, si tu avais démarré, peut-être que tu aurais été dans cet accident. Un peu plus loin, il y avait encore un autre accident. Jamais j'ai eu autant d'accidents. Hein. Il y a eu 3 accidents, il y a eu 2 feux sur l'autoroute, et il y a même un camion qui a brûlé sur l'autoroute, de l'autre côté. Alors pour vous dire, c'était la journée des incidents. Mais je me suis dit, mais si tu avais pu démarrer du premier coup, tu aurais peut-être été dans cette situation et tu aurais eu beaucoup plus de problèmes que de ne pas pouvoir démarrer. C'est rendez grâce en toute chose, ne murmurez pas, apprenez à ne pas murmurer, à accepter la volonté de Dieu telle qu'elle se présente. Même rater un bus fait partie de la volonté permissive de Dieu. Bon, bien sûr, c'est parfois vous n'êtes pas levé assez tôt, hein. Attention, ne faites pas de la confusion. Parfois, c'est un châtiment. Vous auriez dû vous lever plus tôt et vous êtes en retard parce que vous l'avez mérité. Mais quand vous êtes absolument dans votre bonne foi, vous avez tout fait tout ce qu'il faut. Eh bien, je me rappelle un jour, j'étais sur une route nationale de droite, vraiment parfaitement droite. Il y avait des platanes de chaque côté et le soleil exactement dans l'axe de la route, si bien que j'étais complètement aveuglé. Et ma vue n'est pas merveilleuse. Et alors, je roulais tranquillement, et le gars qui est à côté de moi, il m'a dit « Arrête, 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 il est au milieu de la route !» Moi, je ne l'avais pas vu, j'ai freiné, j'ai arrêté, j'ai vu un gendarme qui était comme ça, au milieu de la nationale. Il n'aurait pas dû être là, hein. Mais bon, il était très effrayé et très fâché contre moi. Et alors, en fait, il y avait une petite départementale qui coupait. Il y avait un stop et il faisait passer quelqu'un qu'il connaissait au stop. Alors il arrêtait les gens de la Grande Nationale pour laisser passer quelqu'un qui normalement aurait dû s'arrêter au stop. Il y avait 2 voitures, la mienne et l'autre, c'est tout. Hein. Donc il pouvait pas. C'est le gendarme qui était en faute normalement parce qu'il aurait dû laisser les choses se faire sans s'en mêler. Mais bon, il m'a donné le maximum de contraventions qu'il pouvait me donner. Et j'ai senti l'injustice de la chose, l'injustice. Je me suis dit, cet homme a passé sa peur sur moi. Et il m'a fait donner le maximum. Bon, bref. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais je suis dans ta main. Et toi, tu permets ces choses-là. Et quelques semaines plus tard, et bon, après, j'avais d'autres événements, mais j'étais en grande difficulté parce que financièrement, je n'avais pas les moyens de payer ce genre de contravention. Je roule normalement et puis je n'ai pas de contravention habituellement. Mais il fallait payer et je n'avais pas les moyens du tout de payer. Et j'espérais bien que dans les 15 jours, j'aurais quelque chose. Et alors, je revenais de la réunion de prière et j'habitais un appartement avec mes frères et sœurs. Et je ne voulais pas les rencontrer. parce que j'étais vraiment désolé et attristé, parce que c'est le lendemain que je devais payer ces contraventions. Et alors, je me suis assis dans ma voiture et j'ai prié. Et je me plaignais un petit peu, hein, murmurais. Dis, Seigneur, voilà, c'est pas juste. C'est tout ça, cet homme s'est vraiment fâché contre moi. Il n'avait pas raison. Et puis, à un certain moment, il y a une petite voix à l'intérieur qui m'a dit, et même si tu es allé en prison, tu es prêt à aller en prison pour moi? Je dis, Seigneur, si c'est pour toi, alors je suis prêt à y aller. Et si c'est pour rendre témoignage de la vie qui est en toi, pour pouvoir parler à des gens qui n'entendraient pas d'une autre manière, alors je suis prêt, Seigneur. Fais ce que tu veux. Et à ce moment-là, la paix de Dieu, celle qui est décrite dans Philippiens 4, verset 6, et 4-4 plutôt, et c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, est rentrée dans mon cœur. Et j'ai eu la conviction inébranlable que Dieu allait me délivrer. Et il m'a donné même un verset. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors, j'étais remonté à bloc. Hein. Je savais que mon Dieu est tout puissant et qu'il suffisait de lui rendre grâce et d'être heureux que lui-même intervient. Et je suis monté chez moi et le matin, je m'étais levé très tôt. Je n'avais pas eu le temps de lire mon livre. Il n'y a que des versets dans ce livre de méditation. Et je l'ai encore, je le lis toujours d'ailleurs. Et alors, je suis tombé sur le même verset que j'avais eu dans mon cœur, qui est « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui hein ?» Alors vraiment, je me dis, Seigneur, tu n'avais pas besoin de me le répéter, mais c'est un cadeau là, vraiment. Hein. Et le lendemain, avant midi, tout était réglé. Tout. Au centime près. C'est vrai qu'il y a la volonté permissive de Dieu, il a permis que cette histoire de gendarme et de contravention arrive. Mais Dieu voit au-delà de cette injustice, il voit notre progression. Aujourd'hui, je veux vous donner ce témoignage. Parce que je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que je sais. Et je vous le certifie parce que je l'ai vécu. Parce que mon Dieu reste le Tout-Puissant. Votre Dieu, qui est mon Dieu, est le Tout-Puissant, est capable d'intervenir dans votre vie et de changer les circonstances. Mais à condition que vous vous soumettiez à sa main. C'est lui qui est le souverain. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le Seigneur. Et nous sommes des humains, nous dépendons de lui, on ne murmure pas contre Dieu, parce qu'on se rebelle à celui qui est le souverain de l'univers. Le gendarme, hein, le policier, quand on n'a pas la conscience trop tranquille, on le craint. Hein. Bon, même quand on a la conscience tranquille, parfois il vaut mieux le craindre. Il faut mieux avoir un peu plus de crainte et faire lever le pied quand c'est sur la route. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que on a peur des hommes et on n'a pas la crainte de Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, qui est le Dieu éternel, qui est le créateur de toutes choses, qui parle et la chose existe, et qui parle et elle n'existe plus. Et le jour où il nous dira, c'est fini, tu rentres avec moi, ça sera fini. Personne ne pourra ajouter une minute ou même une seconde ou un milliardième de seconde à votre vie quand Dieu aura dit que c'est fini. Si Dieu permet une chose, qui va l'empêcher? Qui va l'empêcher? Si Dieu parle, qui va le faire taire? C'est le Dieu Tout-Puissant et nous devons avoir de la crainte de Dieu. Nous devons avoir le respect de Dieu. On doit se tenir dans la présence de Dieu avec crainte. C'est notre Père qui nous aime, qui a donné son Fils pour nous. Mais comme dit Paul, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Parce qu'il y a des chrétiens qui prennent la grâce de Dieu en vain, qui croient que Dieu c'est un copain. Dieu n'est pas un copain. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il est notre Père par grâce, parce qu'il nous a élevés jusqu'à lui. Et il nous appelle ses enfants. Mais néanmoins, nous devons avoir du respect et de la crainte de Dieu. Nous attendre à Dieu, regarder vers lui, ne parlez pas légèrement sur Dieu. « Oh, pourquoi tu as encore fait ça? Tu vois bien que c'est... Et moi, j'aimerais bien que ça soit comme ça. » Et nos prières même sont manque de respect combien de fois j'ai entendu des chrétiens, je me rappelle d'un pasteur, au pupitre, bon, c'est un mouvement que je n'approuve pas, hein, mais je ne vous dirai pas lequel. Mais il parlait, il disait, « Seigneur, tu nous donneras !» Il tapait sur le pupitre, « Et tu feras !»« Et nous aurons !»« Et nous croyons !»« Et nous te demandons !» Et il y a même, j'ai lu dans un livre, « Nous avons pouvoir sur Dieu !» Qui sommes-nous ? Misérables humains, petits vers de terre, rien du tout. Comment nous prononçons des paroles aussi fortes contre Dieu et sur Dieu ? Comment est-ce qu'on élève la voix ? On est prosterné devant Dieu, on s'agenouille devant Dieu, on s'humilie devant Dieu. On dit, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, qu'il en soit fait non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Qui a prononcé ces paroles ? Savez-vous qui a prononcé ces paroles ? C'est le Seigneur Jésus, le Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant, par rapport à son Père. Le Fils était soumis à son Père, et d'ailleurs il est toujours. Ma volonté est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est le Fils qui a dit ça. Et si le Fils de Dieu a dit ça, à plus forte raison, nous, êtres humains, qu'il en soit fait selon ce que tu veux et pas selon ce que je veux. Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns qui tombèrent par l'exterminateur. C'est quelque chose de terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Terrible. C'est pas dans l'Ancien Testament que c'est dit, hein. C'est dans le Nouveau Testament. Et c'est dans l'Épître aux Hébreux. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et c'est dit à des chrétiens. Et il y a même un autre passage dans la même Épître aux Hébreux. Il est dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. On s'approche de Dieu avec respect, avec crainte. Combien de fois nous manquons de respect à Dieu et nous croyons que nous sommes libres, libres. Nous, en effet, nous sommes libres, affranchis par Jésus-Christ, mais pas libres de faire n'importe quoi. La liberté, c'est pas de faire n'importe quoi. C'est pas. Je vais vous donner un exemple. Voilà, je suis libre. Je fais ce que je veux. Oui ? Je vais prendre l'argent qui est dans la poche du voisin. Cette liberté-là, ça s'appelle pas de la liberté, c'est du vol. Si vous croyez que la liberté, c'est de faire ça, vous serez vite voleur. Vous allez. Moi, je suis libre. Beaucoup de gens achètent une moto parce que j'avais des amis qui faisaient de la moto. D'ailleurs, pas beaucoup sont encore en vie, hein, et parce qu'ils étaient libres. Ben, libres de se tuer sur la route aussi. Et je me rappelle d'un, voilà, c'est bêtement. Hein, il roulait avec sa moto, il était tout petit. Et sa moto était immense, c'était une BMW, un truc très gros. Et même quand il était comme ça sur le feu rouge, parce qu'il ne pouvait pas, tellement il était petit. Et alors, un jour, il s'est tué. Non pas avec sa moto, mais avec une mobylette. Ah, il y a quelqu'un qui a dit, c'est dommage de se tuer en mobylette quand on peut se tuer en moto. Oui, c'est comme ça. C'est la liberté. Ah, la liberté. Ils pouvaient rouler. Ils avaient du mal à conduire une voiture, hein, parce qu'ils disaient, mais ça ne répond pas à une voiture. Si j'appuie sur l'accélérateur, ça ne démarre pas comme une moto. Ils n'étaient pas contents. Mais c'est cette liberté. Mais cette liberté, elle conduit à la mort. Il y a une liberté selon le monde qui conduit à la mort. Notre liberté en Christ, c'est d'être soumis à Christ. C'est la liberté que j'ai, c'est de remettre ma vie entre les mains de Dieu. Je suis libre de le faire. Je n'ai aucune contrainte. Personne ne m'empêche de dire à Dieu, sois mon maître, sois mon Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais cette liberté, c'est de mettre ma liberté au service de Christ et de devenir, comme Paul dit, esclave de Jésus-Christ. Et c'est la vraie liberté. Parce que la liberté en Christ, je suis affranchi de moi-même, affranchi du péché, affranchi de beaucoup de choses qui me tenaient esclave. Et je ne pouvais pas dire non. Quand j'étais dans le péché, quand j'étais inconverti, la plupart des choses, je ne pouvais pas dire non. Il y a certaines, je pouvais dire non. Mais d'autres, non. J'étais incapable. Mais en Christ, j'ai le pouvoir de dire non. C'est la liberté en Christ. C'est donc quand nous sommes dans certaines situations, eh bien on dit Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Je m'appuie sur toi, je regarde vers toi, je me confie en toi. Et je peux vous dire, il n'y a pas de meilleur chemin que de remettre toujours sa vie entre les mains de Dieu, de lui dire Seigneur, prends ma vie, dispose de ma vie comme tu veux. C'est pour moi, je vois, et je suis consterné. Tout à l'heure, on a pris avec Daniel le véhicule pour venir jusqu'ici, et je vois des gens en vêtements de sport en train de courir le dimanche matin. Je me dis, mais il n'y a que ça à faire le dimanche matin. Il y a Dieu, il y a le Dieu Tout-Puissant, et ces gens-là qui sont créatures de Dieu ne s'approchent pas de Dieu, si peu que ce soit. Ils n'ont pas une pensée vers Dieu ce dimanche. C'est dommage, vous savez. Et combien de fois vous prenez les gens, vous prenez le métro, vous les voyez, ils sont tenus de sport, ils vont courir dans les bois, ils ont un pique-nique, ou ils ont ceci, ou ils ont cela, ils vont... Mais il manque l'essentiel à leur vie. C'est, nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous nous approchons de Dieu avec crainte, nous le cherchons lui, nous remettons notre vie entre ses mains. Je vous encourage le matin, avant même de vous lever, d'avoir prononcé les premières paroles de votre journée, de dire Seigneur, cette journée, je la remets entre tes mains. Je te demande d'en disposer, conduis mes pas, protège-moi dans toutes les situations, que je te glorifie en toutes choses, protège ma bouche, protège mes pensées, protège-moi de tout ce que je pourrais faire ou dire qui te déplairait d'une manière ou d'une autre. Conduis-moi dans ta vérité, conduis-moi dans le bon chemin, éclaire mes yeux, donne de la sagesse à mon cœur, que je fasse ce qui t'est agréable, que ce ne soit pas ma volonté qui s'accomplisse, mais la tienne toujours. Qu'elle soit douloureuse ou qu'elle soit joyeuse, que ta volonté soit faite. Je l'approuve, quelle qu'elle soit. C'est le bon chemin qu'un chrétien doit prendre. C'est être soumis à la volonté de Dieu. C'est le problème du peuple d'Israël, c'est qu'ils ont été esclaves en Égypte. Et quand ils ont été libres, ils n'ont pas choisi d'être soumis à Dieu. Ils étaient soumis à des hommes. Ils regrettaient de ne plus être soumis aux hommes. Ils voulaient retourner en Égypte et retourner à l'esclavage de l'Égypte. C'était une folie, parce qu'ils ne voulaient pas être soumis à leur Dieu et accepter de Dieu que les choses arrivent comme lui, il avait décidé qu'elles devaient arriver. Évidemment, un jour, ils ont manqué d'eau. Dans un désert, c'est normal de manquer d'eau. Et c'est normal de manquer d'eau quand on est un peuple qui est dans le désert, et un peuple de 3 à 4 millions. Même s'il y a de l'eau, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et il y a les troupeaux aussi, parce que c'était des bergers. Ils avaient d'immenses troupeaux. L'eau était une priorité importante. Et il ne pouvait pas dire, mais mon Dieu qui m'a fait sortir d'Égypte, ne peut-il pas pourvoir à l'eau que je dois boire? Je lui fais confiance. Même si c'est difficile, même si je lui ferai confiance, je regarderai vers lui. Mon Dieu qui m'a sauvé, qui a donné son Fils Jésus-Christ, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses en Jésus-Christ? Mais il n'a pas épargné son Fils pour nous. Comment peut-il ne pas nous donner ce dont nous avons besoin? Et si nous n'avons pas ces choses-là, c'est qu'elles ne nous étaient pas nécessaires. Et parfois, nous sommes obligés de passer par des moments difficiles pour apprendre à compter sur Dieu. Et c'est l'épreuve de notre foi. Et dans l'épreuve, eh bien, la foi grandit. C'est la foi qui n'est pas éprouvée. J'ai la foi, voilà, j'ai la foi. Montre-moi ta foi. Eh bien oui, mais je n'ai pas d'épreuve. Eh bien oui, si vous n'avez pas d'épreuve, votre foi, elle est inefficace. Vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est dans les épreuves qu'on utilise la foi. La foi existe dans l'épreuve. Après, vous pouvez toujours vous vanter d'avoir la foi. C'est dans l'épreuve que l'on voit où est votre foi. Si elle est grande ou si elle est petite ou si elle est inexistante, c'est là que... Et donc, ne nous plaignons pas des épreuves, parce que c'est la foi qui doit se manifester. Et c'est quand nous sommes éprouvés et que nous passons l'épreuve avec foi, eh bien c'est là que Dieu est glorifié et que nous grandissons dans la foi. C'est quand on murmure, eh bien on calomnie Dieu. On dit: Seigneur, tu n'es pas capable, tu ne peux pas, tu ne m'aimes pas, tu as fait des promesses et elles sont pour rien. Pourtant, vous lisez les promesses dans la Bible, elles sont vraies, elles sont certaines, pour une seule raison, c'est Dieu qui les a prononcées. Si Dieu a parlé, c'est certain. Si un homme parle, eh bien on peut remettre en question ce qu'il dit, mais pas Dieu. Si Dieu a parlé, c'est certain. Alors vous pouvez vous appuyer avec fermeté sur ce que vous lisez dans la parole de Dieu, parce que Dieu l'a dit. Il est évident que c'est à la mesure de notre foi. Et combien de fois des gens sont venus voir le Seigneur Jésus pour être guéris, pour une chose, pour une autre. Et le Seigneur Jésus leur a dit: qu'il te soit fait selon ta foi. Et le Seigneur Jésus, il est même dit, il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Même le Seigneur Jésus ne pouvait pas faire de miracle là où il y avait l'incrédulité. Et il est dit, à part qu'il imposa les mains à quelques malades, voilà. Le Seigneur Jésus ne peut pas, parce qu'il n'y avait pas la foi. Et même dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien à cause de leur incrédulité. Ils entendirent des paroles qui ont été inutiles parce qu'ils étaient incrédules. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Pas pour que nous jugions le peuple d'Israël, mais pour que ces paroles, on les tourne vers nous et on dit: mais est-ce que je suis? Est-ce que je fais? Est-ce que je me comporte comme il faudrait? Parfois, la question, elle est bonne à se poser. Est-ce que ma vie chrétienne est ce qu'elle doit être? Est-ce que je suis le chrétien que Dieu approuve? Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? C'est très important. Parfois, eh bien, vous n'avez plus la paix avec Dieu dans votre cœur, mais c'est très important de le mettre en règle tout de suite. Dès que vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas, eh bien, mettez en règle. Ne restez pas là-dessus. Il y a un obstacle, quelque chose qui est entre Dieu et vous, qui brouille la communication, qui empêche la communion avec Dieu, qui empêche Dieu de vous parler, de satisfaire votre cœur, de mettre sa paix en vous. Mettez-le en règle, parce que, comme je vous ai dit, il y a des épreuves, l'épreuve de notre foi, c'est très important. Il y a des tentations, c'est Satan qui vient lui-même nous suggérer: allons, rebelle-toi, tu te rends compte ce qui t'arrive, on t'a fait ça à toi, mais alors tu n'as plus de dignité. Où est ta dignité humaine? Je vais vous dire, la dignité humaine, vous savez comment ça s'appelle dans la Bible? Il n'y a jamais eu question de dignité humaine dans la Bible. Il est question d'orgueil. C'est ce qu'on appelle la dignité humaine, souvent, c'est l'orgueil. Et on n'aime pas être humilié. Et il y a des gens qui sont capables de vous humilier, même en public, et de vous dire des choses désagréables devant tout le monde. Mais Satan vient dire, réponds-lui, hein, tu te rends compte de ce qu'il t'a dit? Et puis, sois ferme, hein, qu'il ne recommence pas. C'est la tentation, mais ce n'est pas une épreuve. Oh, vous pouvez dire que c'est une épreuve, mais c'est d'abord une tentation. Et puis je voudrais terminer avec ce verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est un verset très rassurant, mais qui est mis en pratique par peu de chrétiens. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. D'abord, ce qui vous arrive, ça peut arriver à n'importe qui. Vous avez une épreuve, vous avez une tentation, vous avez quelque chose qui pèse sur vous. C'est donné à d'autres de vivre ce genre de choses. Il n'y a pas que vous sur la terre qui avez ce genre d'épreuve. On n'a pas tous les mêmes épreuves, mais votre épreuve est partagée par d'autres. Et elle est humaine. Et Dieu qui est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle, il y a le mot foi dans le mot fidèle. C'est-à-dire que Dieu est digne de foi. Fidèle, c'est quelqu'un qui... C'est une qualité. Pour un homme, c'est une qualité. Mais pour Dieu, c'est sa nature. Dieu est fidèle, comme Dieu est amour. Il ne peut pas changer. Il est comme cela. Et donc, Dieu est fidèle. Donc, jamais Dieu sera autre chose que fidèle. Il est fidèle, nous est fidèle à nous. Il est fidèle à lui-même. Et il est fidèle à sa parole. Sa fidélité est parfaite, complète. C'est ce qu'il a dit, il exécutera. C'est certain, parce que Dieu est fidèle. Et c'est sa nature. Donc, même Paul dit aux Corinthiens, dans la deuxième épître, il dit « aussi vrai que Dieu est fidèle ». Donc, quand il veut rapprocher sa parole, qui est certaine, et Paul avait dit quelque chose, il n'a pas pu aller chez les Corinthiens, il dit, pour se justifier, parce que les Corinthiens parlaient mal de lui, il dit « aussi vrai que Dieu est fidèle ». Donc, si vous voulez comparer mon attitude, comparer à la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que l'étalon, la norme, c'est la fidélité de Dieu. Paul dit, c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. Donc, il dit que Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle. Il ne me permettra jamais qu'une tentation qui survienne, qui soit au-dessus de vos forces. Et Satan vient toujours vous dire, c'est au-dessus de tes forces. Mais je peux dire une chose, la tentation qui arrive est à la limite de vos forces. Ce n'est pas que vous la passez, ça c'est facile. C'est toujours, la tentation est à la limite de vos forces. Et c'est pour cela que Satan vient vous dire, c'est au-dessus de tes forces. Mais Dieu est fidèle. Donc vous avez la possibilité de dire non. Vous pouvez dire non. Même si ça paraît impossible, ça paraît impossible parce que c'est la limite de nos forces. Parce que si vous voulez dépasser vos limites, eh bien, il faut toujours arriver à ces limites pour pouvoir un jour les dépasser. Et Dieu sait très bien que si nous voulons grandir, il veut que nous grandissions, eh bien, il faut que nous allions aux limites. Et donc, Dieu, notre épreuve touche toujours nos limites. Et donc, n'écoutez pas l'ennemi qui vient dire « Oh, c'est impossible, tu n'y arriveras pas. » Tu te rends compte ce qui t'arrive ? Impossible. Dieu t'a donné une épreuve bien trop grande. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il y a un moyen d'en sortir. Vous ne le trouvez pas. Et puis, vous ne le trouverez jamais si vous ne marchez pas avec Dieu. Si vous n'êtes pas soumis à Dieu, si vous ne regardez pas vers Dieu. Parce que vous pouvez imaginer des multitudes de libérations de votre épreuve. J'ai l'habitude d'expliquer ça comme ça. Voilà, vous êtes éprouvé et vous imaginez 10 possibilités de sortir de l'épreuve. Eh bien, Dieu vous sortira par la 11e. C'est celle à laquelle vous n'avez pas pensé. Mais quand... vous êtes délivré, vous dites, mais comment est-ce que je n'y ai pas pensé ? C'était évident que ça pouvait être comme ça. Vous n'y avez pas pensé parce que quand Dieu parle, il crée. Et quand il ordonne votre délivrance, il crée la délivrance. Donc ce sont des choses qui ne peuvent pas monter à votre pensée. Vous ne pouvez pas imaginer votre délivrance. Alors ne cherchez pas, n'imaginez pas, confiez-vous à Dieu, regardez vers lui, faites ce que vous devez faire. Et attendez que lui-même vous délivre. Alors, attendez, ce n'est pas dans la passivité. Il y a des gens qui disent « j'attends ». J'attends la volonté de Dieu. Eh bien, vous l'attendrez toute votre vie comme ça. Parce que on l'attend activement. Et c'est comme cela que l'on a la délivrance de l'épreuve. Il n'y a pas de passivité. Le chrétien n'est pas quelqu'un de passif. C'est quelqu'un qui est actif, qui met en route sa foi, qui dit je crois, et qui nourrit sa foi de la parole de Dieu, qui se rappelle des versets bibliques, qui dit Dieu a parlé, Dieu a dit, je te rends grâce, mon Dieu. Et c'est dans cette lutte, dans ce combat de la foi qui triomphe, que Dieu nous délivre de l'épreuve. C'est parce qu'il y a un moment où vous êtes prêt à être délivré. Parce que ce n'est pas Dieu qui retarde la délivrance, c'est vous qui n'êtes pas prêt à être délivré. Et au fur et à mesure que vous rendez grâce à Dieu, que vous nourrissez de la parole de Dieu, que vous vous appuyez sur les promesses, vous grandissez dans la foi, vous vous affermissez dans la promesse, et vous dites, Seigneur, je le crois. Je m'appuie sur toi. Et il y a un moment où la foi triomphe de tous les obstacles et elle est victorieuse. Et c'est ce que dit Paul, le verset que j'ai cité tout à l'heure dans Philippiens, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et il y a ce moment où on triomphe et la paix de Dieu remplit notre cœur. On dit, Seigneur, je te loue. Parce qu'à un certain moment, on ne demande plus. Parce qu'on a obtenu. On n'a pas encore en main, mais on l'a obtenu. C'est une certitude absolue. On le sait qu'on l'a obtenu. Alors il n'y a plus à demander. Il y a à rendre grâce, à louer le Seigneur pour la manière dont il va nous délivrer, comment il va nous exaucer. C'est très important, vous savez, de remettre nos vies entre les mains de Dieu, de regarder vers lui, de nous attendre à lui, de nous appuyer sur lui, de regarder vers le Dieu Tout-Puissant. C'est toutes ces choses sont arrivés pour notre instruction. Ne regardez pas vos épreuves et vos difficultés comme des lourds fardeaux ou des choses qui sont insupportables, dont vous voulez vous débarrasser au plus vite. C'est tout cela arrive pour que vous appreniez, pour que vous grandissiez, pour que vous alliez plus loin. Parce que tout cela arrive, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, de justice, de patience, de bonté, de fidélité. Et il désire que nous nous approchions de lui avec des qualités qui viennent de lui et que nous ayons tout ce qui est nécessaire, tout ce que lui approuve. Il veut que nous grandissions dans la foi, que nous grandissions dans sa parole, que nous grandissions dans la communion fraternelle, que nous grandissions dans le support mutuel, que nous grandissions dans bien des domaines. Et c'est pour cela que les épreuves nous arrivent, pour que nous grandissions, pour que nous allions plus loin. Alors gardez-vous des murmures. Gardez-vous de tout cela. Tout cela vous tient en bas et vous maintiendra en bas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ou même jusqu'à votre mort. Parce que vous ne ferez aucun progrès tant que vous n'aurez pas regardé et dit, Seigneur, tout cela, c'est dans ta main. Et je regarde vers toi et je me confie en toi. Et c'est le triomphe de la foi sur l'incrédulité. Sur la vie mondaine, sur la vie de ce monde qui murmure contre Dieu, qui brandit le poing contre Dieu, qui blasphème le nom de Dieu. Oh, bien sûr, on ne va pas jusque-là, mais néanmoins, eh ben, on fait certaines choses qui sont condamnables. Et c'est rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous allons prier pour terminer. Ô notre Dieu, combien nous désirons te louer parce que tout arrive selon ta volonté, selon ta permission. Même Satan ne peut pas aller plus loin que ce que tu permets. Et nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre rocher, parce que tu es notre espérance. Nous nous appuyons sur toi et nous sommes renouvelés. Notre Dieu, gloire à ton nom, louange à toi, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu l'es et tu le resteras éternellement. Notre Dieu, nous plaçons notre confiance en toi. Nous te demandons, Seigneur, de veiller sur nous. Ô, fortifie, Seigneur, ce qui est faible en nous. Donne-nous des forces, que nous sachions grandir, nous appuyer sur toi. Veille sur nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont tentés, qui sont dans les épreuves, qui sont dans les moments difficiles. Ô Père Céleste, qui ne se détourne pas. Au contraire, Seigneur, qui lève le regard vers toi, un regard d'espérance, un regard de confiance dans le Dieu fidèle, dans le Dieu tout-puissant, dans le Dieu éternel, dans le Dieu qui a fait les promesses. Notre Dieu, nous croyons en toi et nous te remercions de toutes nos épreuves et de tous les moments difficiles. Gloire et louange à toi, notre Dieu, parce que tu es le tout-puissant et tu es infiniment sage. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.